victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Dansons devant lui,
dansons devant lui,
rempli de sa vie,
rempli de sa vie.
Dieu est avec nous,
Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Bonjour à tous, bienvenue à l'église évangélique de Mérin. C'est un plaisir de vous accueillir au nom du groupe de jeunes CTT. Donc ce matin, on va faire un culte un petit peu différent. Voilà, on va faire un culte un peu plus participatif. Donc il n'y aura pas de sketch cette fois-ci, désolée. Mais donc c'est aussi pour ça que les enfants ne resteront pas tout le long, mais on les invite déjà, s'ils souhaitent, à venir devant, puisqu'on aura quand même 2-3 choses pour eux. Et puis, attendez-vous aussi à ce qu'on vous sollicite un peu. Le but, c'est que vous nous aidiez aussi à transmettre une parole de Dieu, si vous l'avez à cœur ou quoi. On a aussi pris le parti de faire une sainte scène au repas canadien, puisqu'on a la chance d'avoir un repas canadien. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir vivre ce moment un peu comme au temps de Jésus, tous ensemble. Donc voilà, c'est normal que vous ne voyiez pas encore les choses sur cette table. Et puis donc voilà, donc si des enfants sont là, vous pouvez venir devant s'ils sont là. On va aussi tout de suite commencer par le moment d'annonce. Donc j'invite Joanne à venir. Et puis pendant les annonces, on fera passer également l'offrande. Donc les personnes en charge de l'offrande, vous pouvez aussi déjà venir.
Bon, alors pour les annonces comme elles sont au début, je vais prendre beaucoup de temps, une petite demi-heure, pas plus, vu que j'ai cette chance-là. Donc pour commencer, le repas canadien à la suite du culte avec le colloque cet après-midi et tout un programme qui est prévu aussi pour les enfants pendant le colloque. Ensuite, dimanche prochain, donc le culte à 10h ici à Mérin. La semaine prochaine et cette semaine aussi, la librairie Eau Vive qui tient un stand livre. Anne-Béatrice.
J'avais juste 3 livres à vous recommander. Fait pour le combat, c'est un livre d'Eugène Peterson que Philippe nous a recommandé et qui touche l'épître aux Hébreux, sauf erreur. Je n'ai pas lu. Un autre livre, c'est l'histoire Cap sur la vie, un roman pour les enfants, disons les plus grands enfants, qui est écrit par Marie Ray Bachet. Donc il y a une vraiment chouette histoire pour les enfants. Et puis un troisième livre, je me suis dit que comme il y avait pas mal de personnes qui arrivaient chez nous, ça s'appelle « Aux sources historiques des églises évangéliques ». C'est la thèse de Marc Luthi, ça a déjà quelques années, mais franchement, c'est historique et ça donne vraiment l'histoire de nos églises, comment elles sont nées à partir du réveil. Voilà, merci de votre attention. Pardon.
Ensuite, samedi 15 décembre à 17h, ici à l'église évangélique de Mérin, venez chanter Noël, et puis j'invite juste Philippe à donner 2-3 petites explications sur ce concept.
Voilà, nous aurons quelques activités festives autour de Noël, dont le samedi 15 décembre de 17 à 18h30 environ, venez chanter Noël. Alors en 2 mots, le concept d'abord, c'est de fêter Noël de façon simple. David Porter animera pour nous un temps de chant communautaire de Noël. Donc c'est pas un spectacle, il n'y a pas une chorale. L'idée, ben, c'est de nous rassembler et d'inviter largement autour de nous pour un temps où nous chanterons simplement quelques grands classiques de Noël. Et puis il y aura également un beau conte et nous finirons par un vin chaud et quelques biscuits de Noël. Je vous encourage non seulement à participer à ce temps festif, mais également à inviter largement autour de vous. Il y a des flyers à l'extérieur. Le flyer est également disponible sur le site internet. Et puis il y a eu, je crois, hier, un actu Mérin. N'hésitez pas à diffuser, ce sera un beau moment à vivre ensemble autour de Noël. Merci.
Et pour finir, le culte du 23 décembre, culte de Noël en famille, où invitez vos familles élargies, on va dire, n'hésitez pas à venir. Il y aura aussi des contes, des histoires pour les enfants, des moments de louange. Donc, ça sera à vivre Noël en famille, en grande famille d'église. Voilà.
Alors, c'est juste pour vous dire que ça fait déjà une année qu'on a fait un stand, donc on en a fait plusieurs années, mais l'année passée, donc, j'avais déjà annoncé le stand de Noël qui se passe dans les rues basses. Je vous donne les dates, le 6, j'ai pas mis mes lunettes. Alors, le 6, le 13, le 15, le 20 décembre, donc, dans les rues basses, à la rue du Marché, donc, en face de la place du Mollard. Alors, chacun, donc, est cordialement invité pour venir déjà voir ce stand de Noël, ou bien pour participer un petit moment, pour être une heure, deux heures, sur le stand. J'ai quelques petits flyers que vous pouvez me demander, si jamais vous voulez avoir ça à la maison pour savoir quand c'est. Et en même temps, j'ai une liste pour ceux qui s'intéressent, les marquer sur cette liste pour savoir à quel moment ils peuvent venir donc au stand. Merci.
Merci. Je propose de prier pour l'offrande. Seigneur, je te remets... cet argent qu'on a pu récolter, je te prie que les personnes qui l'utilisent, l'utilisent avec sagesse et selon ta volonté. Merci parce que tu nous offres à chacun des biens et que on te doit tout, Seigneur. Amen. Pour continuer, je vous propose de lire un texte de la Bible. Comme vous le savez tous, normalement, on fait en ce moment des cultes qui se suivent sur les actes. Donc la semaine passée, on a fait acte 2, et en sachant ça, enfin il y a deux semaines, voilà, bref, sachant ça, on a décidé d'être dans cette continuité, et donc avec le groupe de jeunes, on a étudié acte 3 pendant tout le mois qui vient de précéder. On a eu un week-end du groupe de jeunes aussi où on a étudié, donc on s'est imprégné de ce texte, et on va vous en parler du coup pendant ce culte, de ce qu'on a retenu, ce qu'on s'est approprié. Et pour commencer, du coup, je vous propose qu'on lise, mais qu'on lise d'une façon un peu plus dynamique. Donc, au week-end du groupe de jeunes, on avait appris quelque chose. On a appris à faire des chœurs parlés. Ça s'appelle comme ça, en fait, c'est une façon de lire le texte à plusieurs voix. Donc, je vous propose de découvrir ça, tout simplement.
Il était 3 heures de l'après-midi,
l'heure de la prière.
Pierre et Jean montaient au temple.
Comme chaque jour, on amène un homme.
Boiteux.
Infirme.
Paralysé.
Il demande l'aumône à ceux qui entrent dans le temple.
Pierre et Jean passent devant lui.
Pierre fixe les yeux sur lui.
Regarde-nous.
Il les regarde attentivement.
Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Il le prit par la main droite et le fit se lever.
L'homme se redresse.
Se lève.
Un pas.
Deux pas.
Il marche.
Il saute.
Il loue Dieu.
Le peuple s'écrie.
N'était-ce pas le boiteux?
L'infirme.
Le paralysé.
Pierre dit.
Pourquoi vous étonnez-vous?
Ce n'est pas par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme.
Le Dieu de nos ancêtres a relevé la gloire de son serviteur Jésus.
Celui que vous avez arrêté. Livré.
Renié.
Oui, vous avez renié le saint, le juste.
Vous avez préféré relâcher un meurtrier. À sa place.
C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi l'infirme que vous voyez et connaissez.
C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous.
Mais nous savons que vous avez agi avec ignorance.
Les prophètes l'avaient annoncé.
Changez donc d'attitude.
Convertissez-vous.
Pour que vos péchés soient effacés.
Alors des temps de repos viendront de la part du Seigneur.
Et il enverra le Messie qui vous était destiné.
Jésus. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui sont là ce matin? Il y en a deux qui arrivent devant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent venir devant? J'ai deux, trois petites questions pour vous. Alors déjà, est-ce que ça vous a plu de lire l'histoire comme ça? Ouais, c'était chouette. On refera alors, avec vous, si vous voulez. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé dans l'histoire? Non? Alors tu veux qu'on explique? Ouais. Est-ce que t'as compris, toi? T'aimerais nous dire ce que t'as compris?
Non.
T'as pas compris? Oh, mince! Alors on a raté notre travail. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est qui les personnages?
Il y a Pierre et je sais plus qui.
Ouais, c'est juste. Et Jean? Et puis, qui c'est qu'il y a un autre monsieur aussi? Tu te souviens? Non, un infirme. Un boiteux, tu te souviens?
Pierre, il avait rien, mais il avait pas d'argent, mais il donnait ce qu'il avait.
Je sais pas. Non. On ne sait plus ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la foi. Vous savez ce que c'est? De croire en Jésus. Et grâce à Jésus, il a pu faire ce miracle. C'était quoi ce miracle?
Faire marcher Jean.
Jean? Mais presque. Un infirme, le boiteux, ouais. Et grâce à Jésus, il a pu se lever et marcher. Et dans nos vies, je crois que Jésus, il fait encore des miracles aujourd'hui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Merci les enfants.
Je propose qu'on prie pour eux avant de les envoyer dans leur groupe. Seigneur, je vais te remettre ces enfants. Je te prie pour ce qu'ils vont apprendre ce matin. Je te demande de les toucher, que tu puisses leur parler en particulier. Merci pour qui ils sont. Merci parce que Tu les as placés dans nos familles et que ouais, tu souhaites qu'on en prenne soin. Amen. Vous pouvez aller dans vos groupes si vous voulez. Maintenant, je vous propose qu'on passe tout de suite au vif du sujet. Bonjour à tous. Alors, on vous a préparé des petits messages, donc je vais commencer par le premier. Donc, je vais parler de l'imitation de Jésus par l'humilité. Donc, dans ce passage, on voit que Pierre et Jean guérissent un infirme par la puissance du nom de Jésus. Et lorsqu'ils voient les gens étonnés autour d'eux, ils auraient pu facilement s'accaparer toute la gloire et dire « Ah, mais
C'est nous qui avons guéri ce malade, c'est grâce à nous, c'est par notre propre force. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils font. Et au contraire, au verset 12, Pierre dit « Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme ?» Il reconnaissait que la puissance venait de Dieu et que sans lui, il ne pouvait rien faire. Et nous, quand on a lu ça, on a ressorti le thème de l'humilité. Et du coup, on a un peu creusé de qu'est-ce que c'était l'humilité vraiment. Et alors, moi, je crois que l'humilité, c'est pas se sous-estimer, se rabaisser, s'autocritiquer, mais c'est reconnaître qui on est et puis qui est Dieu. Et c'est reconnaître que Dieu est tout-puissant et que toutes choses viennent de lui. Donc, comme nous le dit le verset dans Romains 12, 36, qu'on connaît bien. « En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui sera la gloire à jamais. » Et donc, en fait, il nous utilise pour ses plans, mais c'est à lui que revient la gloire. Et je pense qu'il n'y a rien de négatif à reconnaître qu'on est moins puissant que notre Créateur. Et d'après un dictionnaire biblique, l'humilité, ce n'est pas la fausse modestie, le découragement, la méconnaissance de notre valeur ou l'abandon de notre dignité, mais c'est la joyeuse acceptation de notre dépendance de fait à l'égard de Dieu et de notre dépendance volontaire au service de nos frères. Elle nous libère de la satisfaction de nous-mêmes, toujours paralysante, et nous inspire continuellement le besoin de progrès. Du coup, après, on pourrait se demander aussi, mais en fait, qu'est-ce que ça nous apporte d'être humble ? Et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de ça, qui parlent des fruits de l'humilité, donc je vais vous en citer trois. Dans 1 Pierre 5, versets 5 et 6, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dans Proverbe 22:4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et pour finir, dans Jacques 4:10, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Donc, on parle souvent de l'orgueil et de ses conséquences, et dans ma Bible d'études, il y avait un petit tableau où c'était marqué que l'orgueil amène le mépris, provoque des querelles, entraîne une punition, amène à la chute et conduit à la ruine. Donc c'est pas très encourageant, mais on parle moins souvent de l'humilité et puis des conséquences de l'humilité, alors qu'on vient de voir dans les versets précédents que c'est très encourageant, puis ça parle de la gloire, ça parle de la vie, puis ça parle de Dieu qui nous élève en fait. Et par rapport au passage, on avait aussi émis l'idée qu'on pouvait faire une distinction entre se mettre en avant ou être mis en avant. Et dans Acte 3, Pierre et Jean, ils sont mis en avant par les autres, mais ils ne se sont pas mis en avant personnellement et ils ont profité d'être mis en avant pour rendre gloire à Dieu. Et pour nous, aujourd'hui, on pourrait prendre l'exemple de personnes qui sont responsables, qui ont des grandes responsabilités, qui sont mises en avant dans leur profession ou n'importe où. Mais on peut quand même rester humble dans cette position. Et alors, bien sûr, pour conclure, c'est facile de parler d'humilité comme ça, mais c'est moins facile de le vivre dans la vie de tous les jours. Et évidemment, moi aussi, j'ai trop souvent manqué d'humilité. Et je pense que, pour conclure, on a vraiment besoin de l'aide de Dieu pour être humble. Et du coup, c'est important de prier pour ça, puis ouais, de demander l'aide de Dieu. Voilà.
Du coup, je m'appelle Laura, et comme la plupart des gens le savent, je suis née dans une famille chrétienne. Et être née dans une famille chrétienne, ça a plein de mots positifs, et c'est trop cool. Mais ça a aussi plein de moments négatifs où, justement, pour moi, même en connaissant plein de choses de la vie, même en connaissant le sens de la vie, en connaissant ce que Dieu avait fait pour moi, et ben, je n'arrivais pas à lui laisser le tour de ma vie.
n'étais pas bien du tout à ce moment-là et je me disais, vas-y, quoi, viens me chercher. En même temps, je ne croyais pas tellement. Et en fait, il y a eu plein de petits épisodes où je savais qu'il était là et c'était trop fou. Il m'envoyait des clins d'œil à droite, à gauche. C'était une année où j'avais perdu un peu espoir en sa capacité de m'aider. Et en fait, juste au moment où ça n'allait pas du tout, je me promenais à Genève avec mes parents dans un parc. Et en fait, j'ai croisé un groupe de jeunes avec tous des t-shirts « Jesus is the way ». Et j'étais à mes merci pour le clin d'œil. Et je suis allée leur parler et j'avais tellement envie de pleurer parce que j'étais tellement reconnaissante qu'il ait mis ces gens-là. Et en fait, c'est tellement rien quand on y pense, mais en fait, c'est comme ça que Jésus, des fois, il vient nous chercher. Et ouais, nous, on essaye de régler nos problèmes par nous-mêmes. Et en fait, non. Enfin, ce qui est fou, c'est qu'en fait, on a tellement besoin de Dieu pour avancer. Et genre, on est petit, on n'est pas grand-chose face à lui. Il est tellement beaucoup plus grand, tellement... Bah, il est parfait, en fait, et nous, on n'est pas. Mais ce qui est fou, c'est qu'il nous aime. Et en fait, il vient nous chercher. Et en fait, j'ai appris quelque chose de fou, c'est-à-dire que j'arriverai pas à avancer toute seule et que je sais qu'il va falloir que je lui laisse ma vie entière et qu'il la gère entièrement et qu'il prenne le volant. Et en fait, il m'a fallu longtemps pour comprendre ça et comprendre le fait que en fait, on est dépendant de lui et qu'on a tellement besoin de lui et qu'il nous aime tellement malgré le fait qu'on est plus petit, qu'on est imparfait. Et ouais, voilà, on a vraiment, vraiment besoin de lui. Et c'est un truc de fou, quoi. Et ouais, merci Seigneur pour ça, quoi. Parce qu'il y avait des moments où ça allait pas du tout. Et c'est lui qui est venu. Et il faut prendre sa main, quoi. Et il va nous guider. Et c'est un truc de fou. Merci, quoi.
Bonjour. Je vais parler par rapport au deuxième thème qu'on a pu découvrir dans Acte 3, à la suite de l'humilité. C'était le fait que les disciples, Pierre et Jean, ont su faire confiance à Dieu. Et par rapport à ça, on a pu émettre plusieurs points. La première chose, c'est qu'ils se sont laissés conduire par Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas dit, c'est pas marqué dans le texte qu'à ce moment-là, Dieu a dit « guérissez l'infirme ». Ils n'ont pas entendu une voix, ils n'ont pas pris un moment de prière de 15 minutes pour faire un choix. Ils se sont laissés conduire par Dieu. Et on peut se dire, mais comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Est-ce qu'ils ont vraiment écouté Dieu à ce moment-là? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû faire un jour de jeûne et de prière pour savoir si l'infirme allait être guéri? Et en fait, pour moi, on doit remonter un petit peu dans Acte 2, où les disciples, les apôtres, sont en communion chaque jour avec Dieu. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Donc pour moi, c'est le premier point important, c'est la confiance à Dieu. Elle ne va pas être une intervention forcément momentanée, à un moment précis, mais c'est quelque chose qui se cultive tous les jours. C'est un temps régulier avec Dieu pour être dans sa présence et pour se laisser conduire par Dieu. La deuxième chose, les disciples ont eu confiance que Dieu agira. Ils disent aux Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Comme si c'était surprenant que Dieu pouvait guérir un infirme. Donc, ce n'est pas eux qui ont fait ce miracle, comme l'avait dit Rachel, c'est Dieu qui a agi, mais il faut faire confiance que Dieu peut agir. Donc, par rapport au premier point, on peut faire confiance que Dieu agit si on se laisse conduire et qu'on sait qu'on va aller dans le plan de Dieu. Pour moi, c'est lié. Et la troisième chose, pour moi, qui est importante, dans la confiance avec Dieu, on peut faire confiance à Dieu si on sait qui est Dieu. Et pour ça, on doit apprendre à le connaître. Apprendre à se rappeler tout ce qu'il a fait pour nous, se remémorer tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est aussi ce que Pierre et Jean disent dans leur discours au peuple à ce moment-là, dans Acte 3, ils font des références à Moïse, aux prophètes, à Abraham, à l'alliance de Dieu. Ils rappellent que Dieu a agi par le passé pour leur rappeler que Dieu va encore pouvoir agir maintenant. Et pour moi, ce qui est important ici, C'est faire confiance à Dieu, c'est pas une confiance aveugle, c'est une confiance qui est basée sur notre relation avec lui, sur l'expérience qu'on a eue, aussi sur l'expérience des autres. Et pour ça, c'est important de pouvoir aussi en parler aux autres, de pouvoir transmettre chaque fois que quelque chose s'est passé dans notre vie, qu'on puisse transmettre la gloire de Dieu aussi aux autres, qu'on puisse aussi faire plus confiance à Dieu par rapport à l'expérience des autres. Donc, pour les trois points, c'est prendre du temps régulier avec Dieu pour pouvoir le connaître mieux, pour pouvoir être plus dans son plan, faire confiance qu'il agira parce que on a déjà vu que par le passé, il a agi. Et pour rentrer plus dans la connaissance de Dieu, dans qui il est, je vous propose de passer un moment de louange où on peut se placer devant lui, où on peut prendre du temps avec lui et qu'on puisse le louer. Thank you.
t'aime quand j'oublie que, en fait, t'étais derrière moi tout le long. Aide-moi à savoir quoi faire, à te connaître mieux pour comprendre ce que tu veux que je fasse. Je vous propose qu'on prenne un moment ensemble pour prier.
tâche d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, si tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes
délaissant mon orgueil, j'abandonne. Bonjour. Magnifique, il y a déjà les slides. J'ai jamais su comment commencer, vraiment. Du coup, je vais vous parler de la repentance aujourd'hui, parce que c'est ce que fait Pierre. Un appel à la repentance en conclusion de la première partie de son discours en acte 3. Tous ont péché et tous sont coupables, même s'ils n'en sont pas conscients. C'est ce qu'il dit en résumé dans le verset 17 de acte 3. Se repentir, c'est quoi, premièrement, parce que c'est quelque chose d'un peu flou. C'est un terme qui a plusieurs sens, qui est assez polysémique. Il y a Ashley qui essaie de nous dire quelque chose depuis derrière. Il faut que je me rapproche. C'est un terme qui a plusieurs sens dans la Bible, selon à qui il est appliqué. Premièrement, Dieu se repent. Dieu change d'avis par rapport, premièrement, à l'homme qui change de comportement. On peut prendre l'exemple de l'homme, de Dieu qui se repent d'avoir créé l'homme dans Genèse lorsqu'il décide de le détruire avec le déluge. Et Dieu se repent aussi vis-à-vis de sa propre justice ou de sa miséricorde. Dans 2 Samuel 24, Dieu arrête son ange destructeur. Donc Dieu se repent, mais l'homme se repent aussi. Mais l'homme ne change pas d'avis, il change de vie. Et qu'est-ce que ça veut dire, changer de vie? Selon moi, c'est la chose la plus importante que l'homme puisse faire par rapport à Dieu. Il y a une belle définition dans 2 Chroniques 7, verset 14. Yes. Juste le lire avec vous. Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face et s'il se détourne de leur mauvaise voie, je les exaucerai des cieux, je leur pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. J'essaie un peu d'analyser ce verset de manière un peu courte, parce qu'on pourrait parler des heures là-dessus. Il y a deux grandes parties, selon moi. Première partie, c'est que l'homme doit s'humilier devant Dieu. C'est-à-dire s'humilier, on l'a vu avec Rachel, délaisser toute forme d'orgueil et reconnaître que Dieu ne lui doit absolument rien et qu'il doit être jugé coupable selon la justice de Dieu. C'est l'humilité. On ne se doit rien à soi-même, c'est Dieu, c'est à Dieu qu'on doit tout. par rapport à cette reconnaissance de culpabilité, il doit agir en conséquence, d'abord vis-à-vis de Dieu, en rétablissant sa relation avec lui. Dans le verset qu'on a lu avant, c'est prier, rétablir la relation avec Dieu. Ensuite, en prenant du temps pour connaître sa volonté, et donc l'écouter, lire sa parole, dans le verset « rechercher sa face ». Et enfin, faire un grand ménage dans sa vie, se détourner de ses mauvaises voies. J'ose avancer que toutes ces étapes dans la repentance sont... le cheminement de la repentance sont obligatoires, mais que la dernière prend une importance particulière dans notre cas, dans la lecture d'Acte 3. Pourquoi est-ce qu'elle prend une importance particulière? Parce que comme l'humilité, avant on l'a vu, dans la Bible, se détourner de ses mauvaises voies, c'est celle qui est toujours laissée de côté par l'homme. Les pharisiens en soi aussi s'humilient et prient, mais cela n'est qu'une façade s'ils ne prennent pas conscience de leur culpabilité, comme on l'a vu avec l'humilité, et s'ils ne délaissent pas leur orgueil, s'ils n'agissent pas en conséquence. C'est de l'hypocrisie. Par ailleurs, la repentance elle-même est traduite par un retour dans la Bible, en Ésaïe 55, verset 6, que l'homme méchant abandonne sa voie et retourne à l'Éternel. Et dans Ézéchiel 18, verset 30, revenez et détournez-vous de vos transgressions. La repentance de l'homme, c'est ce que l'Éternel désire de la part de ses enfants. Nous pouvons l'observer dans tout l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament, Israël pêche et mérite le châtiment. Mais Dieu est amour et miséricorde et veut pardonner l'homme qui s'est détourné. Il veut tellement renouer avec nous qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui accepte son sacrifice à la vie éternelle. Et ça, c'est magnifique, je pense qu'on est tous d'accord de le dire. Cependant, Dieu a horreur des apparences. On va juste citer encore Osée 6, verset 6. « Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Ce que Dieu veut vraiment, à mon sens, c'est le sacrifice de l'orgueil et le dévouement complet à lui par ce retour dont j'ai parlé, par la repentance. Et je finirai par cette phrase. La repentance, c'est, selon moi, le sacrifice de notre propre vie à Dieu.
Ouais, donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit témoignage. Donc ce petit témoignage, c'était quand j'étais petit, quand j'avais à peu près 8 ans. On va dire j'étais plutôt bien entouré, j'avais pas mal d'amis. Et avec ceux qui n'étaient pas mes amis, je me comportais vraiment mal, j'étais vraiment pas sympa. Je les rabaissais dans le sens que lorsqu'ils avaient des notes moins bonnes que moi, en quelque sorte je les insultais, je les rabaissais, je me moquais d'eux. Quand on faisait du sport aussi, c'était moins fort que moi. Et ouais, souvent après avoir fait ce genre de choses, après m'être moqué d'eux, à l'intérieur de moi, je ressentais comme un vide, j'étais pas très bien, je me sentais vraiment coupable. Et une fois, après justement avoir insulté quelqu'un, lui avoir dit beaucoup de mal, je m'en souviens bien, c'était un camarade de classe, ouais. Je me suis excusé envers lui et envers Dieu. Et après, je me sentais vraiment beaucoup mieux. J'étais vraiment mieux, j'étais libéré, j'étais pardonné. Ouais, je me suis repenti et cette repentance m'a vraiment libéré. Dieu m'a vraiment pardonné. Et ouais, je m'en souviens après ça que c'était vraiment un sentiment de satisfaction incroyable. Et ouais, la repentance, c'est pour ça, c'est... après qu'on ait fait du mal à des gens, après que ça soit fait du mal, qu'on ait fait du mal à Dieu, bah c'est pour demander pardon et après se sentir vraiment mieux pour être libéré de nos péchés.
Bonjour. Du coup, moi, je vais parler de communication. Sylvain en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Du coup, j'aimerais commencer par parler de confiance, parce que je pense qu'elle est la base de notre relation avec Dieu. Et pourtant, c'est quelque chose qui est assez difficile à avoir dans notre vie, dans nos relations en général. Et on ne l'accorde pas forcément tout de suite, et on attend d'être sûr de pouvoir le faire. Et je pense que notre relation avec Dieu, elle se base aussi sur certaines choses qui peuvent nous servir de preuve. Je pense qu'on a besoin d'apprendre à connaître Dieu et d'apprendre à voir ce qu'il a déjà fait. Du coup, quand on côtoie des chrétiens, quand on va à l'église, on peut entendre beaucoup de témoignages de la présence de Dieu qui agit sans arrêt dans la vie des gens. Et c'est pour ça que c'est, comme l'a dit Sylvain, si important de témoigner et de transmettre aux autres ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore tous les jours pour nous, pour qu'ils puissent aussi être encouragés et avoir aussi plus confiance. Et comme les témoignages d'autres personnes, ils ont pu nous nourrir. Et du coup, ça agit un peu comme une chaîne. Les témoignages de nos grands-parents qui ont témoigné à leurs enfants, qui témoignent à leurs enfants, qui témoignent à nous, comme mes parents, ils ont fait pour moi et comme j'aimerais le faire pour mes enfants. Et du coup, on s'est posé la question de comment transmettre le message, parce que ce n'est pas si facile. Et comment on peut trouver une manière appropriée de toucher les cœurs. Parce que c'est vrai que les mots de Pierre, ils sont très forts. Et on s'est demandé s'ils n'étaient pas un peu trop accusateurs. Et c'est vrai que dans le temps, l'Église, elle demandait à ses fidèles de se repentir de manière assez distante, pas très empathique, et en mettant une sorte de hiérarchie entre le clergé et le peuple. Et les fidèles, je pense qu'ils faisaient un peu la même chose en assénant des vérités bibliques et sans témoigner de manière aimante. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que Dieu puisse nous utiliser là où on est et de créer qu'on puisse créer une relation avec les gens qui nous entourent et ensuite parler de Dieu, tout en adaptant nos mots à chacune des personnes à qui on va parler, en étant authentique et en accordant aussi nos comportements à nos mots et à nos convictions. Et on essaye d'être des témoins de l'Évangile là où on se trouve, et notre but étant pas de montrer qu'on est meilleur, même si souvent on entend les gens dire qu'on se croit meilleur, mais qu'on a juste reconnu être pécheur et que justement on a besoin de Dieu pour pouvoir vivre et être heureux. Et personnellement, je pense qu'une communication directe et assez franche, de ne pas passer par quatre chemins, de ne pas embellir la vérité, ni cacher les difficultés, et surtout, le plus important, de le faire avec humilité, et ben ça permet d'être totalement authentique, de parler sincèrement et montrer que la relation avec Dieu, elle est magnifique. Et c'est vrai que j'ai souvent cru que les pasteurs ou les leaders d'un groupe de jeunes qui étaient forcément plus avancés dans la foi n'avaient pas de difficultés, que tout allait bien dans leur vie, et alors qu'en fait, c'est juste qu'ils n'en parlaient pas, et que du coup, je pense que le partage, il est impératif dans une relation plutôt horizontale et pas de supériorité où on va essayer de prendre le pouvoir sur toi en te montrant que je t'apprends quelque chose et que toi, tu n'as rien à m'apporter. Et voilà. Et on vous a transmis tous ces messages sans... Enfin, c'est personnel, après, c'est pas forcément la vérité, mais... On ne veut pas être accusateur, mais juste dire que ben Dieu, il a un cœur immense et que si on se repent, il pardonne tout.
Alors, salut, je m'appelle Loïc, j'ai 22 ans et c'est maintenant quelques mois que je viens au groupe de jeunes. Et ce matin, je voulais vous partager une petite partie de mon témoignage. En fait, il se trouve qu'il y a quelques années, j'étais en quelque sorte un menteur compulsif. Et les choses sont vraiment devenues compliquées après le divorce de mes parents, aussi après le déménagement chez ma belle-mère, avec mon père, ma sœur et mon frère. Ouais, j'avais à peu près 14 ans. Même si j'étais pas le plus turbulent des adolescents, et même si je m'accrochais vraiment à Dieu parce qu'il comptait beaucoup pour moi, au final, dès que je faisais une bêtise, j'étais assez malin pour dissimuler les choses, pour cacher les choses sous le tapis. Et ça fait que souvent je mentais beaucoup et je cachais beaucoup de trucs, enfin j'avais beaucoup de secrets. Ouais, pour ça, je me disais que comme ça je simplifiais les choses. J'évitais à mes parents il évitait aux parents de s'inquiéter pour rien. Et de l'autre, eh ben, je me faisais pas engueuler, donc c'était aussi bénéfique pour moi. Mais je me suis rendu compte que c'était mauvais. Et puis, ouais, à force d'agir comme ça avec mes parents, j'ai commencé à me comporter aussi comme ça avec mes amis. Et j'ai gardé de plus en plus de choses pour moi. Et même les bonnes choses, je commençais à être très renfermé. Si bien que, petit à petit, une énorme carapace s'est construite autour de moi. Et même mes amis les plus proches ne pouvaient pas percer cette carapace. Ouais, ça a duré un moment comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que petit à petit, après avoir grandi en maturité, puis avoir pu comprendre même qu'une infime partie de ce qu'était l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu, eh ben, j'ai compris que ces mensonges, ça me détruisait petit à petit. Et ouais, ça a été dur de changer. Il a fallu beaucoup de temps, de persévérance et de soutien pour vraiment m'ouvrir aux gens, pour me repentir de ce mensonge et ouais, changer simplement. Le plus dur de tout ça, ça a été d'avouer à mon père, surtout plusieurs années après tous les coups tordus que je lui avais fait. Mais j'avais vraiment envie d'honorer Dieu dans notre relation. Et maintenant, ça doit faire 2-3 ans que j'ai décidé de... Enfin, que je lui ai avoué ça et que j'ai décidé de plus lui mentir, en fait. De simplement oser dire la vérité, même si elle fait mal, même si elle blesse. Et même si je reste humain, si je suis pas parfait, si je continue bien souvent à me décevoir moi-même, et ben maintenant, j'ai vraiment pu me rendre compte de l'importance d'adorer avec les gens. Simplement parce que les mensonges et les secrets, ça emprisonne, alors que la vérité rend libre. Et c'est ça que proclame la Bible. Amen.
Voilà, ça c'était un petit peu ce qu'on a retenu d'acte 3. Et ce qu'on aimerait maintenant, c'est que vous reteniez quelque chose aussi. Alors, c'est le moment qui va devenir un peu participatif. Vous inquiétez pas, hein, on va rien vous demander de dire, mais... On veut vous proposer un moment un peu particulier. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de temps, puisqu'on est en avance. Et en fait, on va vous proposer un moment où on va pouvoir, ne prenez pas mal, hein, se repentir les uns les autres. Le but, en fait, c'est qu'on puisse soit se mettre par groupe, soit tout seul, si vous voulez prier avec une personne en particulier, Philippe est présent aussi. Mais c'est vraiment qu'on puisse mettre en application ce qu'on a vu ce matin. Et je vous encourage à vous confesser les uns aux autres, parce que ça demande beaucoup d'humilité de dire à voix haute ce qu'on a sur le cœur. Et en tant que famille, on est aussi là pour se soutenir les uns les autres. Et je pense qu'on doit pouvoir vraiment être authentique les uns avec les autres. Donc voilà, si vous voulez vous mettre avec des personnes en qui vous avez confiance, ou si vous vraiment vous préférez être seul, c'est aussi une bonne chose. Mais vous pouvez vous déplacer dans la salle, vous pouvez sortir, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un moment qui est pour vous. On va mettre un petit temps de musique aussi pour voilà, que ça couvre un peu, si on ne veut pas non, tout le monde, toute l'église entende. Et voilà, c'est un temps où vous avez la parole pour parler entre vous, pour parler à Dieu et pour parler à tout le monde. Vous avez aussi tout à fait le droit, si vous sentez que Dieu vous parle, de venir ici et de proposer quelque chose, de parler de quelque chose, si vous avez un témoignage ou quoi. Donc voilà, ce petit moment maintenant pour nous tous.
Thank you. autres, moi j'ai besoin de ces espaces dans ma vie pour demander pardon à Dieu. J'ai besoin de ces espaces. Et j'aimerais juste remercier le CTT de nous l'offrir de façon toute spéciale ce matin. Et puis en pensant à cette notion de repentance, j'ai juste ces quelques versets de la première épître de Jean qui me revenaient en tête. Parfois, moi, quand je dois me repentir, j'ai l'impression d'être un peu écrasé. Parce que je compte les choses, je les vois, je sais qui je suis. Et ce ne serait pas juste de rester dans une situation d'écrasement. 1 Jean 1, verset 8. Si nous prétendons être sans péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Je dois reconnaître que je suis un homme pécheur. Si au contraire, nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. La richesse de l'évangile de Jésus-Christ. Non seulement nous sommes pardonnés, mais en plus nous sommes purifiés. Les conséquences de nos péchés vis-à-vis de Dieu sont effacées par le sang de Jésus. Les conséquences de nos péchés vis-à-vis de nous, la culpabilité que nous portons, est effacée. Il nous purifie. Il y a de quoi être profondément reconnaissant et, à mon sens, renouveler l'exercice chaque fois que nous en avons besoin. Merci à Dieu pour sa grâce.
Avant qu'on prenne un prochain chant, est-ce que quelqu'un d'autre aurait voulu pouvoir parler ou apporter quelque chose que vous sentiez libre si vous voulez?
J'aimerais juste déjà dire merci beaucoup à tous ces jeunes qui ont programmé, qui ont œuvré pour pouvoir nous apporter ce magnifique culte. J'aimerais les remercier de tout cœur et chacun, je pense, se joindre à moi pour les remercier. J'ai retenu beaucoup de choses, mais dans le dernier slide qu'il y avait ici devant nous, j'ai retenu trois choses. Transmettre et encourager, relation authentique et communication sincère. Alors, je saute sur l'occasion. Je viens de faire un petit laïus pour le stand. Je vous encourage tous, que ce soit les plus âgés, mais les jeunes particulièrement, de venir au stand. Parce qu'au stand, on peut transmettre et encourager. On peut avoir une relation authentique avec les personnes qui viennent et on a une communication sincère.
Amen. Alors, c'est la fin officielle du culte. Maintenant, nous, on aime bien continuer. Aux après-soirées, souvent en groupe de jeunes, on a tendance à faire traîner un peu en longueur. Donc, vous êtes le bienvenu pour rester dans cette salle si vous souhaitez. On va continuer la musique. Si vous voulez encore parler, vous n'avez pas terminé ce que vous vouliez partager, voilà, vous êtes le bienvenu de rester. Pour ceux qui, voilà, qui souhaitent passer à l'after, vous pouvez vous rendre dans le foyer. Et on se réjouit de vous retrouver pour la Sainte Cène au repas canadien. Et je propose une prière de bénédiction pour terminer. Seigneur Jésus, je te prie pour tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je te remets tout ce qui a été dit. Je te prie de travailler les cœurs encore cette semaine, qu'on puisse mettre en application ce qu'on a décidé aujourd'hui, ce qu'on a compris de nos erreurs. Je te prie de nous accompagner toute cette semaine et qu'on puisse transmettre, qu'on puisse être authentique, qu'on puisse être celle et lumière. Amen.
Samuel, merci beaucoup d'avoir joué de la fête. Non, il n'y aura pas qu'un adulte. Moi, je crois que je vais chercher une pizza et puis aller la couper. Pour le repas canadien. Parce que j'ai rien à me dire.
Mathieu. Mathieu.
Oups.